France Info. 20h-21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous, beaucoup de questions ce soir dans les informés autour du retour de l'État islamique qui revendique, vous le savez, l'attentat de Moscou, avec ce soir un Vladimir Poutine qui évoque des islamistes radicaux, mais qui continue à cibler l'Ukraine. Sylvain Tronchet, le correspondant de France Info à Moscou, essaiera de nous faire la traduction de tout ça. En France, Vigipirate de nouveau au seuil urgence attentat, c'est-à-dire le plus élevé, 4 mois pile avant le lancement, le démarrage des Jeux Olympiques et Paralympiques. 2 attentats ont été évités depuis le début de l'année, c'est ce que dit de son côté Gabriel Attal. On parle de tout ça avec l'expert des informés qui est ce soir Guillaume Ancel, qui nous éclairera aussi d'ailleurs sur l'information du jour concernant Gaza, puisque pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU exige un cessez-le-feu immédiat. Les Américains, c'est à noter, se sont abstenus. Et puis, comment la France traite-t-elle ses enfants et adultes handicapés ? Y a-t-il un risque de maltraitance systémique dans les centres spécialisés ? Comment mieux contrôler, mieux prendre en charge ? Comme après le scandale Orpea pour les EHPAD, le gouvernement lance en tout cas un grand plan suite à un documentaire diffusé hier soir sur M6. On parle de tout ça avec nos informés qui sont ce soir Paul Quignot, directeur délégué de la rédaction de Libération, Patricia Alémonière à côté de vous, grand reporter spécialiste des questions internationales et auteur du livre « Au cœur du chaos » aux éditions Artaud, et Quentin Calmet, journaliste politique et parlementaire à Public Sénat. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
Les quatre.
Bonsoir.
Et d'abord Moscou, Sylvain Tronchet, bonsoir.
Bonsoir Bérangère.
Correspondant de France Info en Russie. D'abord les toutes dernières infos concernant l'enquête sur l'attentat au Crocus City Hall près de Moscou. Le dernier bilan, parce qu'il n'est pas forcément... Il y a plusieurs versions qui circulent ici. Comment avance l'enquête et combien de personnes en fait sont interrogées? On parle de 3 nouveaux suspects interpellés.
Oui, qui seraient des suspects périphériques, hein, j'ai envie de dire. Ils sont présentés en tout cas comme tels par le comité d'enquête russe. Ils auraient fourni la voiture, la Clio notamment, qui a servi à transporter le commando. Mais les 4 premiers qui avaient été fédérés cette nuit sont présentés comme étant les membres du commando qui ont attaqué le Crocus City Hall. En ce qui concerne le bilan, je dirais qu'il évolue quasiment d'heure finalement, parce qu'il y a un bilan officiel, il y a un bilan officieux également qui circule sur les réseaux sociaux. Il n'est toujours pas stabilisé. On est à un peu moins de 150 morts, pour dire les choses à gros traits, ce qui est absolument abominable. Il est possible qu'il reste encore des corps dans les décombres et par ailleurs, un certain nombre de blessés se trouvent toujours dans un état critique dans les hôpitaux moscovites.
Alors Sylvain, il y a toujours un énorme tabou autour à Moscou, autour de la revendication de l'État islamique. Vladimir Poutine a pris la parole ce soir, on va l'écouter, puis vous allez nous aider à comprendre.
Nous savons que ce crime a été commis par des islamistes radicaux dont l'idéologie est combattue par le monde islamique lui-même depuis des siècles. Bien entendu, il est important de répondre à la question de savoir pourquoi les terroristes, après leur crime, ont essayé de partir en Ukraine. Qui les attendait là-bas ?
Voilà, donc il parle à la fois d'islam radical, Sylvain, et il continue à faire le lien avec l'Ukraine, comme c'est le cas depuis le début. Expliquez-nous.
Bon, depuis 48 heures, on avait bien compris, de toute façon, parce que Vladimir Poutine avait donné le ton, et que toute la chaîne propagandiste du Kremlin... Qui a ses relais connus, que ce soit Margarita Simonian, la grande patronne de RT, que ce soit Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Vladimir Solovyov, le présentateur de talk show, toute la chaîne de propagande s'était mise en branle pour désigner l'Ukraine comme commanditaire de cet attentat. Et Vladimir Poutine avait donné le ton il y a 48 heures. Donc on savait, à partir du moment où les choses sont installées comme cela en Russie, c'est un train... sur des rails, les choses ne vont pas dévier. Ce qu'on ne savait pas, c'était comment Vladimir Poutine, finalement, allait réussir à s'en sortir face à un certain nombre d'évidences, quand même, qui, dans le même temps, désignaient le terrorisme islamiste. Eh bien, il l'a fait de la façon la plus simple possible, en quelque sorte. Il dit, oui, ce sont des terroristes islamistes, mais comme les États-Unis mettent beaucoup de soin à essayer de dire que c'est l'État islamique, eh bien, donc, ça veut dire que ça n'est pas l'État islamique. Il faut suivre sa logique derrière. Et par ailleurs, les terroristes se dirigeaient vers l'Ukraine, donc suivez mon regard, et il se trouve que le régime de Kiev est en train de créer de nouvelles jeunesses hitlériennes, c'est ce qu'il a dit aussi ce soir. Donc, sous-entendu, on voit très bien la version russe qui est en train de se construire, qui est que ces terroristes islamistes auraient été manipulés par le régime de Kiev dans le but de déstabiliser la Russie. Je devance, je pense, de quelques jours les conclusions du comité d'enquête.
Alors, c'est très intéressant et on va pouvoir en débattre autour de la table. Juste encore un mot, Sylvain, un attentat avec un tel bilan, les Russes n'avaient pas connu ça depuis une vingtaine d'années avec la prise d'otage de Beslan. Comment le pays vit tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, il y a un choc immense, une tristesse immense, elle est palpable, on la ressent, ça c'est très clair. Concernant les commanditaires ou les exécutants, pour avoir parlé sur les lieux d'ailleurs que l'on voit à l'image actuellement du Crocus City hier avec pas mal de monde, on ne peut pas dire que tous les Russes adhèrent à la version du Kremlin, loin de là. Il y a beaucoup de Russes qui, même au micro, m'ont dit qu'ils ne croyaient pas à la version, du moins à l'implication de l'Ukraine, ou en tout cas qu'ils étaient troublés, que les choses ne leur semblaient pas claires. Ce qui m'a marqué surtout beaucoup, c'est que beaucoup de Russes ont mis en cause les défaillances des systèmes des services de sécurité, parce qu'au fond, ça écorne un peu le contrat social qui est passé entre Vladimir Poutine et sa population. Enfin, je ne sais pas si tout le monde est très libre de signer, mais qui dit en gros... Nous restreignons vos libertés individuelles, mais en contrepartie, nous vous garantissons la stabilité et la sécurité. Il se trouve que là, la sécurité a été sérieusement ébranlée, et beaucoup de gens qui viennent comme ça à notre micro critiquer les forces de sécurité dans un pays où les siloviki, comme on les appelle, hein, les structures de force, représentent la colonne vertébrale de la Russie. Ça n'est pas complètement anodin, mais il y a d'abord un choc et une sidération absolument immense qui s'est emparée du pays.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Paul Quignot de Libération, Patricia Alémonière, spécialiste des questions internationales, Quentin Calmé de Public Sénat et Guillaume Ancel, ancien officier écrivain. Et je me tourne vers vous. On va revenir sur tous les éléments, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'a dit Sylvain Tronchet. D'abord, notre expert que vous êtes, je voudrais que vous nous disiez, l'EI est de retour. Il y a un mode de revendication qui est clair. Il y a une branche afghane. Expliquez-nous un peu ce que tout ça vous dit.
L'attentat près de Moscou ne fait pas de doute sur qui l'a commis. Pourquoi ? Parce que le mode opératoire, c'est celui du Bataclan, qui est assez classique pour ce genre d'organisation, ce qui n'est absolument pas le cas des Ukrainiens. Si les Ukrainiens s'étaient permis de faire ça, ils perdaient immédiatement le soutien des 50 pays alliés. D'autre part, cet attentat ressemble étrangement à celui qui a été commis en Iran au mois de janvier. Donc on est sur un mode de faire qu'on connaît bien. Il a été revendiqué sur Telegram, qui est leur canal habituel de revendication sur le sujet, donc c'est plutôt authentifié. Et surtout, les Américains avaient intercepté des communications début mars, qu'en tout cas ils ont révélé aux Russes publiquement, en leur disant « Nous avons l'information que l'État islamique prépare un attentat » sur un spectacle.
Il y a des grands rassemblements, oui.
À Moscou. Et donc, on a tous les éléments pour savoir ce qu'est cet attentat et qui l'a commis.
Ils avaient conscience, donc, ils avaient connaissance de la menace, notamment parce que, je dis ça parce que le FSB évoque une début mars, le 7 mars, le FSB oui. Annonce avoir tué des membres de l'EI. Oui,
pratiquement le même jour, les Américains afghane. Ont lancé cette alerte. Manière. Mais les Américains avaient précisé que pour 48 heures et immédiatement après, enfin quelques jours plus tard, Vladimir Poutine avait dit que cette annonce américaine, en tout cas, eh bien, était simplement là pour déstabiliser la Russie dans sa guerre vis-à-vis de l'Ukraine. Donc il avait botté en touche et c'était une déclaration totalement publique, si vous voulez. Alors que cette menace de l'État islamique vis-à-vis de la Russie est ancienne. Il y a eu bon nombre d'attentats, plus de 19 pratiquement. Alors il y a eu des vrais attentats.
Il faut expliquer sans doute pourquoi l'EI vise la Russie.
Alors l'EI vise la Russie parce que... aux yeux de l'EI d'abord, au Khorasan, hein, c'est ça, en Afghanistan, en fait, est une branche qui lutte contre les talibans. Or, aujourd'hui, les Russes sont alliés aux talibans et leur livrent du blé. Donc, ça facilite pas les rapports. Les Russes sont associés à cette guerre menée par Bachar al-Assad contre l'EI en Syrie. La Russie est alliée, est au Sahel, plus exactement, et lutte là encore contre des branches de l'État islamique. Donc, la Russie est en lutte contre l'État islamique. Et en plus, la Russie représente les infidèles, les croisés. Même si, pourtant, la Russie de Vladimir Poutine a toujours hésité à pointer du doigt l'islam dans le terrorisme international, parce qu'il y a 15% de musulmans quand même dans la fédération.
Mais comme le disait Paul Quignot à l'instant, effectivement, Vladimir Poutine est en défense des chrétiens.
Oui, mais vis-à-vis de l'islam, il est un peu, il essaye d'être modéré. Paradoxalement, parce qu'il a besoin des pays musulmans pour vendre.
Et la Russie est aussi alliée à l'Iran, qui est aussi un ennemi de l'EI. Donc ça, c'est une raison supplémentaire.
Alors, malgré tout ça, on se retrouve avec un Vladimir Poutine, et Sylvain Tronchet le disait, qui maintient, alors le contexte de la guerre en Ukraine depuis 2 ans est évidemment très, très présent. Comment expliquer cette espèce de grand écart Guillaume Ancel, comment vous avez entendu, vous, la déclaration de Vladimir
Attention,
Poutine
parce que
ce soir ?
Vladimir Poutine, d'abord, est totalement obsédé par son idée de soumettre l'Ukraine. Donc tout doit s'effacer par rapport à ça. Et je pense qu'il a été le premier surpris et fragilisé par cet attentat parce que ça ne rentrait pas dans son plan. On se souvient qu'on était dans une séquence « Je me fais réélire tel l'empereur Bokassa », c'est moi-même qui ai annoncé le résultat avant que le scrutin ait eu lieu. Après, je fais célébrer ma toute-puissance. Je montre surtout que mon pouvoir repose sur la terreur que j'inspire, et que personne ne devrait s'opposer à nous. Après, il prend dans le viseur, en particulier le président Macron et la France, qui osent essayer de mobiliser l'Europe pour dire on peut pas laisser faire les Russes en Ukraine. Et là, on a une volée absolument extraordinaire entre Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, après Dmitri Peskov, pardon, le porte-parole de Poutine, pour nous dire les pires horreurs, les pires menaces, bien nous montrer que on va être écrasé puisque on ose s'opposer à Poutine. Et là, c'est l'État islamique qui commet un attentat dans une ville hyper sécurisée, pour ne pas dire à moitié paranoïaque, à quelques minutes d'une base de la garde fédérale russe, qui est notamment en charge de la sécurité de Moscou. Et alors même que les Américains ont prévenu qu'il y avait un risque intensif, mais Poutine s'est planté dans les grandes largeurs, j'oserais dire, pardon du raccourci, ça ressemble à Netanyahou face à l'attaque terroriste de début octobre. Il est complètement à côté de la plaque sur le sujet, alors que tout son discours consiste à raconter aux Russes qu'avec lui, on rétablit l'ordre. Ben non, c'est le désordre.
Question pour vous et Sylvain Tronchet, voudrais aussi votre avis et les autres d'ailleurs, mais maintenant que l'EI a revendiqué, est-ce qu'on peut affirmer que les autorités ukrainiennes n'ont rien à voir avec cet attentat? Vous ne battez pas pour répondre.
Je le fais avec plaisir.
Alors, pardon. Sylvain Tronchet,
Pardon.
Très honnêtement, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Enfin, je ne suis pas dans l'enquête. Encore une fois, moi, je m'en remets aux experts. Guillaume Ancel l'a expliqué, qui disent que la revendication de l'EI est tout à fait crédible. Il y a par ailleurs un contexte, effectivement, qui rend crédible une attaque menée par Daesh sur le sol russe.
Sur le lieu où on les a interpellés.
Et par ailleurs, j'aurais tendance à dire que parce que ça a été évoqué aussi, les théories complotistes circulent beaucoup. Si les Russes avaient voulu monter une opération tendant à impliquer l'Ukraine sur leur territoire, ils auraient très probablement choisi quelque chose et un scénario beaucoup plus évident pour désigner l'Ukraine. Là, on le voit, Vladimir Poutine lui-même est obligé de se livrer à des contorsions absolument invraisemblables pour réussir à rassembler tout le fil de cette histoire et finalement faire en sorte que tout se tende vers Kiev. Ça paraît extrêmement compliqué. Donc, en tout état de cause, on doit reconnaître que l'hypothèse la plus probable, il y a un élément que Guillaume Ancel n'a pas évoqué, mais qui est la nationalité du commando aussi, qui plaide en cette faveur. On sait que le Tadjikistan a fourni dans le passé, encore aujourd'hui, des bataillons de combattants à l'État islamique. Et c'est parfaitement cohérent avec le profil des suspects qui, pour le coup, sont présentés par la justice russe.
Ouais, c'est précisément les contorsions qui me faisaient poser cette question, parce que et comme Vladimir Poutine continue à cibler l'Ukraine, explique que les assaillants tentaient de fuir vers l'Ukraine.
C'est un scénario complètement dingo.
C'est bien d'écarter les...
Zelensky a trop besoin des Occidentaux dans sa guerre contre Poutine pour faire une bêtise pareille. Donc cette hypothèse-là, elle me semble totalement farfelue. Après, est-ce qu'il pourrait y avoir des factions pro-ukrainiennes, mais peut-être pro-recommandables qui auraient, mais c'est vraiment des hypothèses farfelues. Donc, c'est pas sérieux.
Et techniquement, à la question que pose Poutine, mais pourquoi ce commando repartait vers l'Ukraine? Mais pardon, il n'est jamais reparti vers l'Ukraine. Vous imaginez un commando comme ça traverser la frontière en guerre entre la Russie et l'Ukraine? Les Russes évidemment auraient bloqué la frontière et je pense que
on cherche toujours. Je cherche toujours moi le fond de vérité qui est cet ordre.
Alors ce dont on est sûr, c'est qu'ils sont dirigés vers la Biélorussie.
Après, il y a 190 km, l'Ukraine à 150.
Voilà. Quand
si on prend le lieu où ont été interpellés les quatre assaillants qui ont été arrêtés effectivement dès le lendemain matin. 150 km de l'Ukraine et cette frontière ultra militarisée où il y a le conflit avec toutes les armées et les mines, etc. Et 190 km avec la Biélorussie, sachant qu'en plus on a eu des porte-paroles de la Biélorussie qui se sont félicités de ce bon travail entre la Russie et la Biélorussie pour arrêter ces assaillants à cet endroit-là. Donc la théorie selon laquelle ils fuyaient vers la Biélorussie, elle fonctionne aussi autant qu'avec l'Ukraine.
Ça ne fonctionne pas plus parce qu'en Biélorussie, c'est comme si vous étiez en Russie. Et donc, vous êtes aussi, c'est pas la porte de sortie, la Biélorussie, c'est la porte où vous pouvez aussi être arrêté, c'est la porte où vous pouvez passer plus facilement pour passer après en Occident. On sait quand même que l'EI du Khorassan avait une capacité aujourd'hui à se projeter à l'extérieur et cette capacité passe par tous les pays. Elle passe aussi bien par la Russie, elle passe aussi bien par l'Ukraine, elle passe même par l'Iran, si vous voulez. Ils ont des capacités de projeter leur personnel dans toutes ces régions-là.